aujourd'hui l'impératrice la plus scandaleuse de l'histoire, Messaline. Assez folle pour préférer une paillasse à son lit du Palatin, l'auguste putain s'offre aux assauts de ses nombreux clients. Puis fatiguée des hommes, mais non pas rassasiée, elle rapporte l'odeur du bordel dans la couche impériale. Juvénal. D'histoire. Traînée dans la boue par tous les historiens romains, Messaline, dont Tacite affirmait que seul son mari ignorait ses débordements, passe depuis 2000 ans pour la souveraine la plus débauchée de l'histoire. Il faut dire qu'elle avait des excuses, élevée elle-même dans les intrigues, les meurtres et les orgies des règnes monstrueux de Tibère et de Caligula. Elle avait été mariée à 13 ans à peine à celui qui allait leur succéder et qui avait 36 ans de plus qu'elle, l'empereur Claude, qui ignorait sans doute en se mariant que sa femme ferait un jour de lui le plus grand cocu de l'Empire romain.
Épouser un membre de la société patricienne serait vraiment une politique avisée.
Quelle est la femme que je pourrais élever jusqu'à moi?
Je pensais à la noble Valéria, Valéria Messaline. Je puis t'assurer qu'elle appartient à l'une des plus grandes familles de Rome. Elle doit très bientôt devenir vestale, peut-être dans quelques mois.
Tu m'as déjà souvent parlé de cette jeune vestale. Qui est-elle exactement?
Elle est la nièce d'Augustus César. Et elle est la plus belle femme de tout l'Empire.
La nièce d'Augustus César? J'espère qu'elle n'est pas aussi ennuyeuse que son illustre ancêtre.
Delorme, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre livre « Scandaleuse princesse », on retrouve toutes les souveraines ou toutes les princesses qui, depuis Cléopâtre jusqu'à la princesse Margaret, aujourd'hui ont scandalisé leurs contemporains. Et parmi elles, évidemment, Messaline, qui est peut-être, au fond, la plus scandaleuse. Parce qu'enfin, une impératrice romaine qui collectionne les amants et qui va dans les lupanards, dans les bordels romains, c'est quand même pas fréquent. C'est tellement énorme, même qu'on se demande dans quelle mesure des historiens comme Suétone, ou encore comme Tacite, ou encore le poète Juvénal, on l'a entendu, n'ont pas forcé, n'ont pas exagéré, n'ont pas noirci le personnage.
Oui, il est certain que le personnage était sans doute moins scandaleux que ces historiens l'ont dépeint, mais malgré tout, il y a un fond de vérité, et il est exact que Messaline a vraiment défrayé la chronique de son temps, à la fois par ses amants, mais également par les violences, le sadisme qu'elle a mis à persécuter ses ennemis. C'est vraiment un personnage tout à fait à part dans l'histoire romaine.
Et puis, scandaleux, pas seulement parce que c'est une impératrice, en tout cas elle le deviendra avec son mariage avec l'empereur Claude, mais aussi parce que elle-même descend d'une très illustre famille. On a pu l'entendre dans l'extrait de Péplum qu'on a passé tout à l'heure.
Oui, alors l'extrait bousculait un petit peu la généalogie. En fait, Claude savait très bien de qui il s'agissait puisque c'était une de ses cousines et qu'ils descendaient tous de la famille qu'on a appelée Julio-Claudienne, la dynastie impériale. Elle-même était arrière-petite-fille d'Antoine et arrière-petite-nièce d'Auguste. Elle était vraiment du sérail, je dirais. Elle faisait partie de cette dynastie qui avait mis la main sur la République romaine depuis pratiquement un siècle. Et donc, bien sûr, ce mariage était un mariage avec Claude, était un mariage d'intérêt, c'est absolument pas un mariage d'amour ou de sentiment. Elle a 13 ans lorsqu'elle épouse son cousin Claude, qui lui en a une cinquantaine. Il a presque, il pourrait être l'âge d'être son grand-père pratiquement, et il a déjà été marié à deux reprises, donc c'est un mariage qui, du côté de Messaline, peut expliquer peut-être ses débordements et ses excès ultérieurs.
Et puis alors, tout de même, pendant une période, parce qu'elle est née en 25 après Jésus-Christ à peu près, donc c'est-à-dire à l'époque de règnes qui ont été des règnes absolument monstrueux, hein, les deuxième et troisième empereurs romains, c'était Tibère et Caligula, c'était absolument abominable.
Oui, elle est élevée dans une ambiance tout à fait à la fois dissolue. Tibère, on se souvient des orgies ou des tableaux pornographiques graphiques qu'il faisait composer par ses esclaves pour son plaisir, et puis bien sûr Caligula, l'empereur fou qui avait nommé son cheval Incitatus consul. Donc bon, même si tout cela est peut-être un peu exagéré aussi par les historiens qui étaient ennemis de ces empereurs, il y a quand même un fond de vérité. Donc bien sûr cette jeune princesse est élevée et grandit dans cette ambiance tout à fait dissolue du Haut Empire romain, donc qui ne va pas l'inciter ensuite à avoir une morale tout à fait régulière.
Caligula d'ailleurs qui voulait même se faire déifier de son vivant. Alors elle-même épouse Claude, c'était pendant le règne de Caligula. Vous le disiez, elle a quand même près de 40 ans de moins que lui. Il pourrait pratiquement être son grand-père. Mais alors le portrait que vous en faites, en plus, il n'est pas engageant. D'abord, il passe vraiment pour un imbécile. Beaucoup de gens disaient que c'était l'oncle de Caligula, Claude. Et pendant que Caligula régnait, et on disait beaucoup qu'il jouait aux imbéciles pour éviter peut-être aussi.
C'est très difficile à déterminer et à faire la part du jeu, effectivement, de Claude essayant de se faire oublier, je dirais, par rapport à ce neveu tout à fait dangereux qui aurait pu très bien le faire exécuter à un moment ou à un autre. On sait qu'à côté de cela, c'était un philologue distingué, oui, qu'il était un des derniers à savoir déchiffrer l'écriture et la langue étrusque, qui même aujourd'hui reste encore un peu un mystère pour les spécialistes de l'Antiquité. Il avait même rajouté trois lettres à l'alphabet romain. Donc c'est à la fois un savant, un homme de cabinet, un homme d'études, et en même temps, à côté de ça, fait un personnage malade, poltron, pleutre, qui aimait apparemment les spectacles sanglants, sans doute un peu sadique. Donc effectivement, un personnage qui entre bien dans cette galerie de portraits entre ces deux, entre Caligula, son prédécesseur, et Néron, son successeur. Un personnage peut-être plus comique, plus ridicule, mais qui aussi avait des côtés et des travers tout à fait dommageables aussi.
Alors ça n'empêche pas son épouse, Philippe Delorme, ça n'empêche pas son épouse Messaline de se comporter au début apparemment comme une épouse modèle. Il faut dire qu'elle est toute jeune, elle a 13, 14, 13 ans. Elle découvre l'amour, elle découvre la maternité aussi.
Elle lui donne deux enfants, Octavie, qui épousera d'ailleurs Néron par la suite, donc on reste toujours en famille. Hein. Et le fameux Britannicus qui sera bien plus tard héros d'une tragédie de Racine et qui sera l'ennemi de son beau-frère Néron, donc et l'adversaire et le rival. Donc oui, elle dans un premier temps, elle a un rôle apparemment d'épouse, de mère au foyer, on peut dire, de matrone romaine tout à fait respectable dans la tradition républicaine. Et puis lorsque son mari devient César, devient empereur après l'assassinat de Caligula, apparemment tout bascule.
Vous m'avez fait empereur, j'essaierai de bien servir Rome. Je veux qu'il soit bien compris que je ne suis pas un dieu et que je n'aspire pas à en devenir un. Je ne suis pas non plus aussi niais que j'ai prétendu l'être depuis des années afin de préserver ma vie. Cela a trop duré. Vous avez fait de moi César, je régnerai en César. Messaline.
Le règne du crime est terminé. Une ère meilleure s'ouvre pour Rome. Nous avons tous souffert des cruautés d'un impitoyable démon. Tout cela est fini. Nous avons un nouveau César. Je le seconderai de mon mieux.
C'était donc l'avènement de Claude, qui devient empereur à la mort de Caligula, assassiné en 41, et donc Messaline qui devient impératrice. Vous dites, Philippe Delorme, que Claude était, quand il est devenu empereur, il a même craint, mon être, assassiné par ceux qui avaient tué également Caligula et que la République soit rétablie, donc il tremblait, disait-on, au moment où il a pris...
Alors tout ça est un peu difficile à démêler, encore une fois, parce que sur ces périodes-là, on a peu de témoignages. La plupart des auteurs nous disent qu'effectivement, il s'était caché même derrière une tenture par crainte d'être assassiné par les prétoriens, par les soldats qui gardaient le palais. En fait, il est possible qu'il était plus ou moins de mèche, je dirais, avec ceux qui ont éliminé Caligula et qu'il est... en fait, c'était le seul héritier possible, c'était le dernier membre de la famille de César qui pouvait être mis sur le trône. À côté de cela, il y avait des sénateurs qui, eux, auraient voulu rétablir la légalité républicaine. Donc, bon, tout ça est un peu compliqué à démêler, en fait, et... ce personnage apparemment falot, apparemment pleutre, etc., va quand même, son règne va quand même correspondre à une des apogées, peut-être à l'apogée de l'Empire romain.
Y compris sur le plan géographique, c'est sous Claude et avec lui. D'ailleurs, il a participé, je crois même, à l'expédition que la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre, a été conquise.
Voilà, qui avait été simplement visitée par Jules César un peu plus de 50 ans auparavant, presque un siècle auparavant. Eh bien, il va installer une province romaine en Bretagne, donc en Grande-Bretagne actuelle. C'est la... une des périodes de la plus grande expansion de la Pax Romana, de la paix romaine. Des villes se construisent, une administration solide et juste s'installe, l'économie est prospère. Donc ce qui fait que pour le peuple, eh bien, pour le peuple romain, ce César, ce Claude va être considéré comme un empereur bénéfique, comme quelqu'un qui apporte la prospérité et la paix.
Et avec lui, une impératrice, donc Messaline, de 16 ans, hein, quand il monte sur le trône, dont on dit qu'elle était une bonne conseillère sur le plan purement politique. Par exemple, je crois savoir qu'à un moment donné, il y a des pénuries alimentaires à Rome, et elle dit à Claude, mais oui, mais ça c'est parce que le blé n'arrive pas toujours dans le port d'Ostie, quand il y a des tempêtes, c'est mauvais, et elle aurait conseillé à Claude de construire, ce qui va être fait d'ailleurs, un immense phare à l'entrée du port d'Ostie.
Oui, alors en fait, Claude est un empereur qui s'entoure de beaucoup de conseillers, qui ne gouverne pas par lui-même. C'est un petit peu le Louis XIII, je dirais, de l'époque romaine. C'est quelqu'un qui aurait, un Louis XIII qui aurait eu beaucoup de Richelieu autour de lui, c'est-à-dire à la fois ses affranchis, c'est-à-dire les conseillers, les ministres qui l'entourent, à la fois les gens de sa domesticité, et bien sûr sa femme, effectivement, vont avoir un rôle déterminant pour orienter sa politique, parce qu'apparemment, c'est effectivement, il donne l'impression de quelqu'un qui hésite, qui est qui s'effraie facilement, qui s'angoisse, qui craint pour sa vie et pour son règne, et on peut le comprendre dans une atmosphère pareille. Donc il va beaucoup s'appuyer effectivement sur son entourage et sur son épouse, bien sûr, Messaline, qui va avoir un rôle, j'irais, de plus en plus croissant et de plus en plus déterminant.
Plus désastreux, parce que voilà que cette épouse modèle, devenue impératrice, devient une femme qui court, qui multiplie, qui collectionne les amants, et elle va même, c'est un texte accablant de Juvénal qui dit que la nuit elle partait dans les lupanards de Rome, qu'elle se grimait plus ou moins, et qu'elle se prostituait moyennant de l'argent sous le nom de Lysisca.
Juvénal, c'est un petit peu les guignols de l'info de notre époque, donc il y a certainement une partie d'exagération. Bon, c'est probable qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que cette idée d'une impératrice ça se faisait finalement pas mal à l'époque. Les femmes de la bonne société allaient facilement passer la nuit avec des gladiateurs parce que il y avait une espèce de piment de se livrer à des hommes qui allaient mourir probablement le lendemain, etc. Donc il y a sans doute un fond de vérité dans ce portrait, même si Juvénal exagère sans doute un petit peu.
Il y a un texte de lui qui est à la limite de la pornographie. J'ai lu quelques extraits édulcorés.
L'appelle l'Augusta Meretrix, c'est-à-dire effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, l'impératrice putain.
Mais à quoi correspond cette espèce de métamorphose, là, encore une fois, la bonne épouse, mère de famille, de deux enfants qu'elle adore, que son mari Claude adore, Octavie et Britannicus, brusquement va courir dans les lupanards, encore une fois, se met, je crois, c'est ce que dit Juvénal en tout cas, une perruque blonde, et puis alors elle épuise tous ceux qui viennent la voir. Est-ce que son mari était au courant?
Selon les textes, non. Selon les textes qu'on a, selon les historiens, non. Et on le fait passer d'ailleurs pour un cocu magnifique, parce que il donne même l'ordre à un moment à un des futurs amants de sa femme d'obéir en tout à la volonté de l'impératrice. Donc il le jette dans ses bras en quelque sorte. Bon, c'est difficile à savoir. Voulait-il ne pas voir? Avait-il envie d'être aveugle volontairement? Ça, c'est très difficile.
Parce qu'il s'en foutait, tout simplement.
Peut-être, et lui de son côté. Se consolait dans les bras de jolies esclaves aussi. Donc
oui, on dit qu'il y avait peut-être de sa part à elle de la jalousie et que c'était une manière de prendre sa revanche. Par exemple, on commence à y être habitué quand on vous lit ou quand on lit toutes les histoires de l'Empire romain. Par exemple, il y avait tout simplement, il était Il avait été dragué littéralement par la sœur de Caligula, Julie Livia, dont Claude était l'oncle, et qui se précipite dans le lit de son oncle, justement.
Oui, oui, donc elle l'élimine, elle envoie en exil, etc. Enfin bon, il y a, et puis elle, de son côté, avait même pris pour amant un ancien petit ami de Caligula. Donc vous voyez, il y a des choses tout à fait... tout à fait étonnante, mais c'est l'époque où en fait où la morale républicaine traditionnelle, qui était une morale patriarcale extrêmement archaïque, extrêmement pesante, éclate. En fait, c'est une société qui a peu perdu les repères traditionnels de religion et de morale, et il faudra attendre en fait l'arrivée du christianisme ou le triomphe du christianisme un ou deux siècles plus tard pour que...
Oui, mais il est déjà présent.
Il est déjà présent, mais comme une secte tout à fait
le règne de Messaline, Claude correspond à la présence, dit-on, en tout cas,
oui,
de Pierre.
Mais c'est une secte
à Rome,
tout à fait méprisée, tout à fait même ignorée de la part des sphères impériales. C'est simplement deux siècles plus tard que ce christianisme va vraiment s'installer comme une religion de plus en plus dominante.
En tout cas, elle commence justement, cette secte, à être persécutée à l'époque de Messaline et de Claude. Elle le sera encore à l'époque de Néron. Il faut dire que Messaline ne supportait pas tous ceux qui pouvaient lui nuire ou encore refuser ses avances.
J'ai une maison près de la mer. Claude ne s'y rend jamais. J'ai besoin de protection et je veux que tu viennes avec moi. Veux-tu m'y accompagner ?
Pourquoi me le demandes-tu ? Tu as dit que j'étais ta chose, ton objet.
Tu n'es pas qu'un simple objet pour moi. Il y a 10 ans que je suis mariée à un homme qui pourrait être mon père. Et pourtant, je n'ai jamais aimé un autre homme. Jamais aimé vraiment. J'ai besoin de ta force.
Je ne crois pas que tu aies besoin de moi. On connaît ton esprit, ton courage et ta réputation. Tout Rome sait pourquoi tu as épousé Claude. Tout Rome sait que depuis ton mariage, tu changes chaque nuit l'homme qui monte la garde devant ta porte.
Albus !
Maîtresse ?
Ramène cet homme à l'école des gladiateurs.
Oui, maîtresse.
C'était dangereux hein, de plaire à Messaline, Philippe Delorme, hein, et de la repousser surtout.
Oui, parce qu'elle, on raconte, alors toujours les textes d'époque racontent qu'elle obligeait même les femmes de la bonne société à se prostituer devant leur mari ou devant leur père, et si les pères et maris en question n'approuvaient pas l'acte, ouais. Eh bien, ils étaient assassinés ou disgraciés. Et puis, on raconte aussi qu'elle s'appropriait, ça c'est vrai, elle s'appropriait les biens et de ses victimes. Hein. On pense qu'on a le chiffre à peu près de 30 sénateurs, de 300 chevaliers qui auraient été obligés soit de se suicider, soit auraient été exécutés ou déportés à cause de la férocité et de la rapacité de Messaline, qui en particulier va récupérer comme cela les jardins de Lucullus, qui sont actuellement d'ailleurs la villa de Médicis à Rome. Le siège de...
Mais ça, je crois que c'était prévu presque par la législation romaine qui encourageait la délation et qui, en échange des dénonciations, ce qui évidemment favorisait les fausses dénonciations, permettait aux dénonciateurs de récupérer les biens de ces victimes,
les empereurs,
même si elles étaient innocentes.
Les empereurs ont beaucoup utilisé ce moyen pour récupérer des biens ou des propriétés qui leur faisaient envie, donc ils accusaient la personne en question d'être coupable de complot contre l'Empire, on l'exécutait et les biens étaient nationalisés, mais enfin ils tombaient dans l'escarcelle de l'empereur.
Ou de l'impératrice,
en l'occurrence.
Mais revenons à ses amours, parce que elle était d'abord très belle, hein, rares étaient ceux qui lui refusaient, mais enfin il pouvait avoir peur évidemment de l'empereur, et puis il pouvait avoir peur s'il restait ou s'il repoussait les avances de l'impératrice, d'être victime justement de sa colère. Vous citez par exemple, alors là on est encore toujours à moitié au bord de l'inceste, le second mari de la mère de Messaline, qui s'appelait Appius Silanus, et qui justement repousse sa belle fille qui essaye également de le faire arriver dans son lit.
Donc là, elle invente un faux complot. Elle dit à César, enfin elle dit à Claude, j'ai eu un rêve prémonitoire. Appius Silanus va comploter contre toi, et donc croyant à ce rêve prémonitoire, il fait assassiner ce rival présumé, enfin qui et donc bien sûr les ses biens tombent dans l'escarcelle de l'impératrice.
Alors oui, ça c'est effectivement c'était une corruption parfaite. Elle joignait l'utile et l'agréable, si je puis dire. Cela dit, elle était capable d'être amoureuse. Hein. Vous avez cité par exemple un acteur qui s'appelle Nestor, qui était l'ancien amant de Caligula, je crois, dont elle était sincèrement amoureuse.
Oui, alors elle fait, c'est assez symbolique puisque on avait supprimé toutes les monnaies à l'effigie de Caligula, donc toutes ces pièces de bronze sont fondues et elle fait avec ce bronze élevé des statues à l'effigie de Nestor, qui devient effectivement elle voue à une sorte de culte, je dirais, amoureux, tout à fait délirant pendant quelque temps. Mais bon, elle est changeante, hein, parce qu'elle va passer à d'autres.
Alors il y en a un qui a beaucoup compté, alors là, qui va être à l'origine d'un véritable scandale. C'est un jeune patricien dont elle était sincèrement amoureux, dont on dit qu'il était le plus beau des Romains, Caius Silius. Alors elle va le faire même nommer consul.
Oui, alors là c'est vraiment sa dernière faute, je dirais, puisque c'est en 48, hein, c'est sa dernière année. Elle tombe amoureuse de ce Caius Silius. Elle lui offre Suétone di furori proximo amor. D'un amour proche de la fureur, elle lui offre donc le titre de consul, elle lui offre un palais où elle passe plus de temps qu'au palais impérial, et elle va même aller jusqu'à vouloir se marier donc légalement avec lui, donc ajouter une nouvelle perversion, je dirais, à son catalogue avec la bigamie, et donc on raconte même que Claude se serait prêté à cette ce simulacre de mariage, donc entre son épouse légitime et Caius Silius.
Mariage qu'elle entreprend en profitant justement de l'absence de son mari qui était parti en province.
Pendant mon absence, Rome est confiée à vos soins. Soyez sur vos gardes. Veillez à ce que l'État et la vie de ses citoyens soient respectés.
Sois tranquille, nous y veillerons. De toute façon, Rome attendra anxieusement ton retour.
Caius Silius.
Toi, Messalina. Qu'est-ce que la femme de l'empereur m'apporte cette fois?
Cette fois, mon cadeau, c'est Rome. Toi et moi ensemble, nous pourrons obtenir l'appui du peuple.
Et l'empereur?
À Capri ou à la campagne.
Rome est à nous, divine Messalina.
À partir de maintenant, une ère nouvelle s'ouvre pour Rome. Et la gloire de Julius César va être éclipsée. Vivons ensemble à la prospérité de Rome. Je te donne le meilleur vin de tout l'Empire.
Enfin, nous avons ton empereur, beau, jeune et viril.
Alors, le mariage de Messaline et de Caius Silius, c'est en 48 de notre ère. Ça dépasse en extravagance tout ce que les empereurs précédents ou suivants, je pense à Néron, ont pu imaginer. Parce que voilà une impératrice qui, du vivant de son mari, alors qu'elle est encore officiellement la femme de l'empereur, eh bien, se marie avec un autre homme. Autrement dit, elle devient bigame.
Et oui, on imagine, certains auteurs nous disent qu'en fait c'était une parodie de mariage et que l'empereur Claude lui-même s'était prêté au jeu parce qu'un astrologue quelques semaines auparavant lui avait indiqué que le mari de Messaline finirait mal. Donc en se prêtant à cette espèce de parodie de mariage, il pensait détourner la fureur du ciel chez Silius, qui aurait été le nouveau mari, en quelque sorte, de l'impératrice. Tout ça, c'est un peu confus. On ne sait pas exactement comment les choses se passent. En tout cas, Claude est à Ostie pour une cérémonie en l'honneur du dieu Vulcain. Et pendant cette cérémonie, on est à l'automne, au moment des vendanges, à Rome, dans les jardins de Lucullus, justement, Messaline fait cette parodie de mariage avec son bien-aimé Silius. Et ça arrive aux oreilles de l'empereur, qui revient, qui s'inquiète, qui finit quand même par s'inquiéter un peu, qui revient de toute urgence d'Ostie et qui fait assassiner, bien sûr, toute la noce, entre guillemets, d'abord le marié, Silius, et tous les invités. Et puis ensuite, Messaline, qui avait réussi à s'échapper, mais qui
Messaline qui implore sa clémence, qui fait venir ses enfants pour qu'ils se prosternent, c'est-à-dire Octavie et Britannicus, pour qu'ils se prosternent aux pieds de leur père, pas moyen, il décide de la faire assassiner.
Alors, il hésite un petit peu, il lui envoie son tribun de la garde, qui, a plus ou moins l'ordre de l'assassiner, en tout cas d'assister à son suicide, puisque c'est comme ça qu'on procédait à l'époque romaine. On n'assassinait pas les gens, mais on les invitait à se suicider, ce qui était un petit peu la même chose. Elle hésite beaucoup, elle n'a pas le courage de s'enfoncer le glaive dans la poitrine, et c'est le tribun de la garde donc qui l'aide et qui la tue finalement. Et on dit que Claude, apprenant cette nouvelle, aurait continué son dîner tout à fait placidement, sans s'inquiéter davantage.
De la mort de sa femme, qui avait 23 ans.
Qui avait 23 ans, tout ça c'est très rapide finalement. Ouais. Elle se marie à 13 ans et elle meurt à 23.
Et alors une femme dont il veut qu'on l'oublie totalement, il décrète ce qu'on appelle la damnatio memoriae, c'est-à-dire que son nom, le nom de Messaline, doit être effacé de tous les édifices publics.
Toutes les statues sont détruites, les inscriptions officielles sont cassées, sont détruites, et donc... Messaline entre vraiment dans l'enfer de l'histoire, et ce qui explique aussi pourquoi les historiens qui vont écrire son histoire quelques dizaines d'années plus tard, donc comme Suétone par exemple, vont peut-être un peu forcer le trait pour la rendre encore plus noire et encore plus condamnable qu'elle ne l'était peut-être réellement.
Ce qui est intéressant, c'est ce qui a suivi, Philippe Delorme, parce que Messaline, donc, tuée par la volonté de son mari, parce qu'elle s'était mariée avec ce Silius, que fait Claude? Il se marie une quatrième fois, alors là, le pauvre, il tombe mal, il se marie avec qui? Avec Agrippine
donc qui était la pire ennemie
de Messaline, d'ailleurs.
D'ailleurs, certains historiens pensent qu'elle aurait trempé dans le complot qui aurait assassiné finalement, abouti à l'assassinat de Messaline. Agrippine, la mère de Néron, futur empereur, va assassiner Claude au moyen de champignons vénéneux, dit-on. Et la morale de cette histoire, c'est que Claude aurait dit « les mariages ne me réussissent vraiment pas ».
Elle-même, d'ailleurs, sera assassinée par son propre fils Néron quand il deviendra empereur. C'est extraordinaire, quand même, cette civilisation étonnante, superbe, puissante, qui était Rome, à une époque où l'inceste, l'assassinat, l'adultère étaient presque des institutions.
Oui, mais à côté de ça, il y avait une administration très forte, une armée qui faisait tenir l'Empire, finalement, à côté de ces turpitudes, je dirais. Il y avait une force de l'idée romaine qui a permis à cet empire gigantesque de tenir.
Merci Philippe Delorme. Je rappelle qu'on retrouve Messaline dans votre livre Scandaleuse Princesse, publié chez Pygmalion, où vous parlez de beaucoup d'autres femmes scandaleuses, princesses, reines ou impératrices de notre histoire. Je rappelle également, ça a été édité chez Pygmalion, je rappelle également que vous venez d'écrire un livre qui vient d'être édité, je crois, chez Buchet-Chastel, et qui était un livre d'entretien avec le comte de Paris. À lire aussi chez Pygmalion, Messaline de Jacqueline d'Auxois, qui elle est beaucoup plus indulgente que vous dans un livre qui est très romancé sur Messaline. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Messaline de Vittorio Cotafavi et puis Les Gladiateurs de Delmer Daves, disponibles en DVD aux éditions de la 20th Century Fox. Toutes ces références sont disponibles bien sûr par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam, Claudine Lapersonne, Claire Tesser, Claire Destacan, Mathieu Ménossi et notre réalisatrice Anne Kobilac.